L'une de mes toutes premières interviews, bien avant la création de Volant, date de 2011. J'étais à San Francisco et j'avais eu la chance de croiser la route d'un des fondateurs de Airbnb. Si vous cherchez sur un moteur de recherche, vous verrez que je n'étais pas très doué à l'époque d'ailleurs. Mais j'étais impressionné et ravi car j'ai toujours trouvé la capacité de Airbnb à créer une communauté de partage vraiment incroyable. Et donc depuis, l'appartement dont je suis propriétaire a toujours été sur Airbnb pour les moments où je suis en vacances ou simplement absent, car cela me permet d'arrondir les fins de mois. Avec ce supplément de revenus, je peux partir en voyage au Japon en 2016 par exemple, sans doute l'un de mes plus beaux voyages. Donc si vous avez une chambre de libre ou si vous partez en week-end, vous avez sans doute vous aussi un Airbnb. Pour découvrir combien pourrait vous rapporter votre logement, rendez-vous sur airbnb.fr/hôte. C'est airbnb.fr/hôte. H-O-T-E. Allez, place à l'épisode maintenant. Si comme moi, vous avez envie de vivre en bonne santé le plus longtemps possible, parce que évidemment notre espérance de vie, elle augmente, vous allez être passionné par cet épisode. Vous le savez peut-être, j'écoute beaucoup de podcasts en anglais et aux États-Unis et en Angleterre, le sujet de la longévité, c'est un vrai gros sujet. Il y a plein de gens qui en parlent. Et en France, étonnamment, c'est un sujet que je vois assez peu émerger finalement. On parle de la santé, bien sûr, on parle des problèmes dans les hôpitaux, mais on ne parle pas de la longévité, de comment je fais en sorte que par mon hygiène de vie aujourd'hui, je puisse vivre en bonne santé le plus longtemps possible. C'est vrai qu'en tant que Français, on va avoir tendance à dire « oui, mais bon, on ne va pas se priver, etc. » Vous savez, c'est un peu pénible. Il ne s'agit pas de se priver nécessairement, il s'agit d'avoir une bonne hygiène de vie. Et en fait, j'avais vraiment envie de creuser. Et aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Christophe de Jaeger, qui est un médecin, chercheur, qui est le président de la Société française de médecine de physiologie de la longévité. C'est aussi l'auteur d'un ouvrage spécialisé qui s'appelle « La médecine de la longévité, une révolution ». Et ensemble, on va parler de beaucoup de choses. Évidemment, de ce qui est possible, de ce qui n'est pas possible, de pourquoi on parle de longévité. Est-ce qu'on parle d'immortalité, d'immortalité, du rôle du stress, de tout ce qui se passe dans le corps, des hommes, des femmes. On va parler évidemment de la ménopause, on va parler du rôle du sport, de la nourriture, qu'est-ce que ça veut dire de bien manger, du rôle de l'alcool, qui est un sujet que je trouve hyper intéressant, en particulier en France. Donc j'espère que ça va vraiment vous intéresser, moi je trouve ça passionnant. Par ailleurs, je me permets de vous demander, si c'est pas le cas, et c'est pas le cas de la majorité des gens en fait, de vous abonner, quelle que soit la plateforme que vous utilisez, ça serait vraiment génial que vous puissiez le faire, parce que ça me permet de recevoir tous les invités que vous avez envie d'entendre sur ce podcast. Donc abonnez-vous, ça permet vraiment au podcast de grandir finalement, et donc de recevoir de plus en plus de personnalités qui vont être passionnantes. C'est la seule chose que je vous demande, juste de vous abonner, de cliquer sur le bouton, ça prend quelques secondes et ça aide vraiment beaucoup de choses. Je vous laisse écouter l'épisode. Allez Vlan, c'est parti. Donc bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour docteur de Jaeger.
Bonjour.
Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui d'être en bonne santé ?
Être en bonne santé est quelque chose de beaucoup plus vaste et large que simplement ne pas être malade. Pendant des siècles, les gens, s'ils étaient non malades, ils se considéraient en bonne santé. Et ça correspond à la première vision de la définition de l'OMS de 1946. Mais en réalité, aujourd'hui, il faut avoir un regard différent. Être en bonne santé, c'est aussi être à un niveau fonctionnel correct. En d'autres termes, ça veut dire pouvoir faire tout ce que vous avez envie de faire, ne pas être limité par des douleurs, ne pas être limité par un essoufflement, ne pas être limité par des troubles cognitifs. Or, on se rend compte que dès 50 ans, vous avez énormément de gens qui ont des troubles fonctionnels, des limitations fonctionnelles, mais qui les gèrent. C'est-à-dire qu'évidemment, lorsqu'ils avaient l'habitude de faire une marche d'une heure et qu'ils étaient capables de faire 10 km, c'est-à-dire qu'une marche vraiment active, hein, vraiment très active, une petite course, eh bien, ils se rendent compte qu'avec le temps, bah, c'est plus que 8 km, c'est plus que 6 km.
Oui, en c'est une heure, plus c'est, 4... déjà, c'est quasiment courir. Hein,
ouais, oui, c'est bah, 10 km heure. Mais ça, c'est une bonne situation fonctionnelle. Ça veut dire que votre corps se porte bien pour être capable de le faire. Pour ça que je prends cet exemple. On peut prendre un autre exemple. Si vous allez travailler et que vous devez normalement, votre bureau est au 5e étage, quand vous avez 20 ans, vous allez monter les 5 étages à pied. À 30 ans, bah, pff, une fois sur deux. À 40 ans, plutôt l'ascenseur. Et à 50 ans, sûrement l'ascenseur. Et donc, ça veut dire quoi ? Ça ne veut pas dire que vous aimez les ascenseurs. Ça veut simplement dire qu'en réalité, vous ne voulez plus vous retrouver en face d'une limitation de vos propres fonctions. Ça se retrouve ensuite plus tard chez le sujet plus âgé. Quand vous avez 70 ans, vous vous dites, il y a plein de gens de 70 ans qui se disent en bonne santé, mais qui avant avaient l'habitude d'acheter leur pain à une boulangerie qui leur plaisait, qui était à 2 km par exemple. Et puis ensuite, ils se disent finalement, celle qui est à 1 km est pas mal du tout. Et on finit au supermarché qui est en face de chez soi. Et on dit à sa famille, à ses amis, mais je suis en pleine santé. Alors, bien sûr, d'une part, parce qu'on n'aime pas forcément toujours parler de soi et de se, et comment dire, de se plaindre. Aussi parce qu'on se dit que ça n'intéresse pas forcément les autres. Mais c'est un signe. Et c'est très important parce que ça nous ramène à cette notion d'âge physiologique. L'âge physiologique, c'est en fait le reflet de vos capacités fonctionnelles réelles. Donc, à 20 ans, normalement, vous êtes au top de vos capacités. C'est là où c'est intéressant, d'ailleurs, de les mesurer pour avoir une référence dans le temps. Évidemment, à 20 ans, les gens se disent, bah non, j'ai 20 ans, je suis parfait, je suis au top, etc. C'est pas la peine d'aller voir un médecin parce qu'il va tout de même, il risque de me trouver une maladie et je suis en pleine forme. Non, non, c'est une illusion. C'est une illusion. Dernier point, parce que ça va parler aux gens. Quand vous achetez une voiture, eh bien, vous apprenez très vite qu'il y a des maintenances à faire à 5 000, à 10 000, à 15 000, 20 000 km en fonction des modèles. Eh bien, vous les faites, ces maintenances. Vous les faites pour éviter que votre voiture tombe en panne. Alors, des fois, vous les faites avec retard, hein, mais vous les faites. Ben, c'est pareil pour l'être humain. L'être humain, on attend la panne, on attend la maladie. C'est absurde. Et c'est pour ça qu'il faut changer de paradigme. Et moi, ça fait des dizaines d'années que, à travers mes interviews, mes livres, j'essaye d'amener les gens à faire pour eux ce qu'ils font pour leur voiture. S'il ne s'agit pas de faire des choses extraordinaires, d'aller en tongs et traverser l'Arctique, ce n'est pas ça que je demande. Je demande simplement, faites au minimum ce que vous faites pour votre voiture. Faites de la maintenance. Donc, allez voir votre médecin, même quand vous n'êtes pas malade. C'est très bien d'aller voir son médecin quand on n'est pas malade. C'est comme ça qu'on fait de la prévention. Alors, c'est ça qui va nous permettre de changer de paradigme. Et c'est ça qui est important. On doit aujourd'hui s'occuper de sa santé avant que la maladie ne s'occupe de vous.
Et en même temps, vous faites dans le livre référence au test d'effort. Parce que les médecins, ils sont formés aujourd'hui à la maladie, si je comprends bien. C'est-à-dire qu'en fait, un test d'effort, si vous parlez en particulier de l'artère coronarienne, si je ne me trompe pas.
Des artères coronariennes, oui.
Qui, en fait, dans un test d'effort, s'ils sont bouchés à 75%, on va vous dire, ça va, d'une certaine manière. C'est-à-dire que vous n'êtes pas malade, techniquement.
C'est la logique médicale actuelle. Nous, les médecins, on est dressés, en fait, à diagnostiquer des maladies et à les traiter. Les guérir, si on peut. Mais au minimum, les traiter. Et aujourd'hui, on est beaucoup face à des maladies chroniques. Donc, le problème, il n'est pas de se dire comment faire pour ne pas être malade, il est de trouver la maladie. Et vous avez énormément de tests qui sont faits, mais quotidiennement, par énormément de collègues qui les font très très bien. Et le test va dire, ok, bah vous n'êtes pas malade. C'est l'exemple de l'ECG d'effort, l'électrocardiogramme d'effort. Vous pédalez, vous faites un effort, le test est négatif. Mais ça ne veut pas dire que vos coronaires sont saines. Pas du tout. Ça veut dire qu'elles ne sont pas malades au point de nécessiter une intervention. C'est une très, très grosse différence. C'est un petit peu comme si on prend votre voiture, le garagiste regarde, il voit que vos plaquettes de frein sont super usées, mais elles tiennent toujours. Bon, mais elles tiennent toujours. Et on va attendre qu'elles lâchent. Ben non, il faut les changer, il faut s'en occuper. Et ça, au niveau médical, on n'a pas encore passé cette limite. Alors, c'est vraiment une question de formation. Les choses changent. Hein. Moi, j'interviens dans différents enseignements en post-doc, c'est-à-dire pour des gens qui ont déjà leur doctorat en médecine et qui font des formations qui vont plus loin. Et on essaye de familiariser les jeunes médecins à des notions dites de physiologie. Parce que la physiologie est passionnante. Pourquoi ? Parce que c'est le fonctionnement normal du corps humain. Et donc, il faut optimiser ce fonctionnement. Et plus on l'optimise, plus on en tient compte, et bien plus on va mettre de chance de son côté de ne pas tomber malade. Et c'est vraiment ça qu'il faut qu'on arrive à faire. Travaillons pour notre santé.
Vous disiez tout à l'heure, vous parliez d'âge physiologique. En fait, dans le livre, vous faites référence au fait qu'on a trois âges. On pourrait quasiment dire qu'on en a quatre, il me semble. C'est évidemment l'âge chronologique, donc notre âge. Voilà, j'ai 47 ans, c'est mon âge. On a un âge physiologique, on a un âge ressenti, on a l'âge du cerveau aussi, parce que vous dites dans le livre qu'on a toujours l'impression d'avoir 20 ans. Donc ça vous fait quatre. Et après, on pourrait, je ne sais pas si l'apparence, et je pense en particulier à la chirurgie esthétique, qui peut être un mauvais ami d'ailleurs de la longévité, parce qu'on a l'impression d'être du coup jeune, on peut aussi avoir des bons gènes, et finalement on...
Alors moi je trouve que c'est quelque chose de très très fondamental. Il faut que vous sachiez que c'est vrai, aujourd'hui on ne traite les individus que par rapport à leur âge chronologique. Mais à quoi ça sert l'âge chronologique? Ça sert à 18 ans et maintenant 17 de vous permettre de passer votre permis de conduire, ça vous sert à déterminer un âge pour partir à la retraite, mais par rapport à votre santé, à votre état, finalement, ça ne veut pas dire grand-chose. Et c'est une des choses d'ailleurs qui m'a amené à m'intéresser à ces problèmes de sénescence, de vieillissement, c'est de constater la différence qui pouvait exister entre des individus. Vous avez des gens de 70 ans qui sont encore jeunes et des gens de 50 ans qui sont déjà vieux, déjà vieux. Et vous voyez que dans chaque tranche d'âge, mais il y a des différences mais considérables. Et les gens se retrouvent d'ailleurs pas tellement par rapport à leur âge, mais par rapport à leur état fonctionnel. Hein, quand on n'est plus capable de faire un parcours de golf en entier, ben on se retrouve avec des gens qui font qu'un demi-parcours, qu'un neuf trous. Et à ce moment-là, on se dit « Ouais, on est super bon, parce qu'on est comme les autres. » Mais on ne joue plus avec des gens qui font le 18 trous, parce que ça les embête de vous traîner, et vous, ça vous embête de les embêter à vous, pour vous traîner. Donc ça, c'est l'âge chronologique. Ensuite, évidemment, ben nous, on s'intéresse à l'âge physiologique réel. Et là, ça veut dire, c'est quoi un âge physiologique ou fonctionnel ? Ça veut dire qu'on va étudier chaque système de votre corps et lui donner un âge fonctionnel. Par exemple, si on regarde vos artères. Alors, les artères, c'est quelque chose de très important. D'ailleurs, il y a un dicton qui dit « on a l'âge de ses artères ». Et c'est juste. La caractéristique physiologique d'une artère, c'est sa souplesse. Une artère jeune est souple. Et ensuite, tout au long de la vie, l'artère va se rigidifier. Ce n'est pas un problème d'obstruction, c'est un problème de paroi. C'est la paroi qui devient rigide. Et à ce moment-là, ça va être fonction de vos gènes, de votre mode de vie, de votre environnement. Il y a plein d'éléments de ce type-là qui vont jouer. Et nous, on peut la mesurer, cette rigidité. Et on va savoir si, par exemple, à 50 ans, vous avez une rigidité d'un homme de 50 ans ou d'un homme de 45 ans ou d'un homme de 65 ans. Et ce qui est important, c'est que si vous avez une rigidité d'un homme de 65 ans, ça veut dire que vous portez le risque d'un homme de 65 ans. C'est ça qui est vraiment quelque chose de très important. Et donc, l'autre avantage de l'âge physiologique, c'est qu'il peut évoluer dans les deux sens. Un âge chronologique...
Oui, il va que dans un sens, a priori.
Ouais, que dans un sens. Chaque année, vous prenez un an. Un âge physiologique peut s'améliorer. C'est-à-dire que si vous prenez les bonnes décisions avec quelqu'un qui vous suit, c'est-à-dire que ça ne se fait pas comme ça dans son coin, je veux dire, il faut avoir une aide technique, eh bien, à ce moment-là, on va se rendre compte que si vous êtes bon, eh bien, votre âge artériel va diminuer. Et si à 50 ans, il était de 65 ans, eh bien, un an, deux ans plus tard, vous aurez 51 ans ou 52 ans, mais votre âge physiologique, descendra peut-être à 60 ou 55. Et c'est ça qui est formidable. C'est-à-dire que la mesure de l'âge physiologique permet en fait de valider une procédure de prise en charge pour vous en tant qu'individu. Alors souvent, j'ai les gens qui me disent « Oui, mais docteur, dites-moi, est-ce que je dois faire ça? Est-ce que je dois faire ça ?» Mais c'est compliqué parce qu'un être humain est compliqué. Tous les êtres humains sont différents. Mmh. Ce qui vous convient à vous ne conviendra pas du tout à quelqu'un d'autre. Et ce qui vous convient aujourd'hui, à vous aujourd'hui à 50 ans, c'est peut-être plus valable à 55, etc. Donc, cette espèce de de presque naïveté qu'ont les gens à chercher des solutions de l'ordre du magique. On le voit dans les revues grand public où ils disent « Ah ben après Noël, il y a la cure détox, il y a le machin, ça va vous faire gagner du temps, c'est la pilule de jouvence, c'est le machin de bidule. »
C'est le dry January.
Voilà. Mais tout ça, c'est des bêtises. Il faut que vous en soyez conscient. C'est des bêtises. Mais si vous faites bien les choses, si vous êtes bien entouré, ben oui, on a des résultats. Et c'est ça qui est extraordinaire. Ensuite, il y a l'âge ressenti. Alors l'âge ressenti, évidemment, il est extrêmement traître parce que c'est vrai que notre cerveau, en fait, nous trompe et nous donne l'impression qu'on a toujours 20 ans. Parce que les 20 ans du cerveau, c'est en relation avec l'âge ressenti, en fait. Vous êtes là, vous dites « Ok, ben finalement, là, vous êtes sur un fauteuil en face de moi, ben, vous dites ben, « Tout va bien, j'ai pas de douleur, je suis pas essoufflé. » ce qui me raconte m'intéresse, ça me donne des idées, donc j'ai plein de projets, je suis comme à 20 ans. Mmh. En fait, c'est mieux que 20 ans presque, parce qu'en plus, vous avez l'expérience.
C'est ça.
Hein, donc, parce que 20 ans, c'est bien fonctionnellement, mais cérébralement, c'est autre chose, parce qu'on est très naïf à 20 ans. Mmh. Donc, c'est traître. C'est traître parce qu'à 50 ans, par exemple, on se dit qu'on a... Allez, pas forcément 20 ans, enfin 20 ans dans sa tête, mais qu'on a 40 ans d'âge ressenti. Mmh. Mais en fait, physiologiquement, vous êtes peut-être à 60. Et donc, croire qu'on est en pleine forme, parce qu'on fait une fois par an du ski, et qu'on est capable de descendre une piste, c'est une totale illusion. Totale illusion. Donc, l'âge ressenti nous trompe réellement. Ensuite, il y a l'esthétique. Alors l'esthétique, moi j'ai rien contre l'esthétique. Moi je suis pas un homme de l'esthétique. Hein. Moi je suis un physiologiste, un médecin physiologiste qui travaille sur la prise en charge de la sénescence humaine. Mais c'est clair que si on gère l'intérieur du corps, on a aussi une peau qui a un bien plus bel aspect, les rides qui s'atténuent, les taches qui disparaissent, etc. Donc, travailler sur l'intérieur est important et est très, je dirais, synergique avec tout ce qui peut être fait en médecine esthétique ou en chirurgie esthétique. Et mais, là aussi, quand vous faites par exemple de la chirurgie ou quand vous faites un petit peu de Botox ou quand vous faites de l'acide hyaluronique, vous avez votre visage qui s'améliore, vous vous dites « tiens, ben, je rajeunis ».
Pas besoin de travailler dessus du coup.
Voilà, donc c'est vachement bien. C'est pas besoin de faire des efforts quotidiens, c'est facile. Il y a des fois une semaine, enfin quelques heures ou quelques jours en fonction du type de procédure d'éviction sociale, mais au final, c'est bien. Mais non, en fait, c'est comme si vous prenez une vieille voiture complètement déglinguée et vous la repeignez. Alors oui, d'aspect, elle est magnifique, mais il ne faut pas la mettre en marche, d'accord ? Parce qu'à ce moment-là, ça va être terrible. Donc, le problème, c'est que nous, on voit des gens qui nous disent, OK, je fais de l'esthétique parce que j'ai un métier où il faut que je fasse jeune, il faut que je fasse dynamique, etc. Et que voilà. Mais je viens vous voir parce qu'il faut que ça suive derrière, quoi. Il faut qu'effectivement, je sois fonctionnellement en bien meilleur état et je me sens bien qu'à 50 ans, c'est pas du tout comme à 40. Les gens qui vous disent à 50 ans, c'est comme à 40, ils sont soit dans le déni, soit dans l'illusion. Je veux dire, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Hein, et ça se mesure très bien. Alors à 60 par rapport à 50, vous imaginez, c'est 70 par rapport à 60 ou par rapport à 50, c'est la bérésina. Mais ça ne nous empêche pas d'être heureux. Ça ne nous empêche pas de partir en vacances, ça ne nous empêche pas d'avoir des projets. Mais on a cette espèce de limite qui doucement diminue, et ces réserves que nous avons et qui sont maximum à 20 ans. Eh bien, ces réserves font que, avec leur diminution, font qu'on se rapproche de la maladie. Et quand la maladie survient, elle accélère la sénescence.
À quel âge on devrait s'intéresser à la longévité, à cette médecine? Parce que vous parlez de médecine régénérative, donc on va parler de médecine régénérative.
On ne parle pas encore de médecine régénérative. La médecine, c'est compliqué. La médecine régénérative fait partie des sciences de la longévité et de la médecine de la longévité. Aujourd'hui, on est capable de bloquer ou de ralentir un certain nombre de phénomènes de la sénescence. C'est-à-dire la sénescence, c'est ce qui nous dégrade. On peut améliorer un certain nombre de choses. Par exemple, la rigidité artérielle, on peut la faire régresser. Ça marche très bien. Et faire régresser la rigidité artérielle, ça veut dire retarder l'émergence des maladies cardiovasculaires. Hein. C'est pas rien. Donc, ça, c'est possible. Demain, il y aura un autre stade où on passera à la médecine régénérative. Ça veut dire qu'on n'arrête plus, on ne ralentit plus, mais on répare carrément. Il y a par exemple des choses comme ça qu'on peut faire sur la peau, des greffes de peau, des choses tout à fait étonnantes. Et c'est vrai que c'est l'enjeu des années à venir. Alors, on commence à flirter avec ça, parce que quand on rallonge des télomères cellulaires, eh bien, on favorise le bon fonctionnement cellulaire, et si la cellule fonctionne mieux, eh bien, à ce moment-là, c'est un élément positif pour l'organisme. Les télomères, pour vos auditeurs, ce sont des petites parties, des petites capsules qui sont au bout des chromosomes. On a nos chromosomes et au bout de chaque chromosome, on a une petite capsule protectrice. Pardon. Et cette petite capsule protectrice, à chaque fois que la cellule se divise, eh bien, elle se réduit. Mais elle n'est pas complètement réparée, elle se réduit. Et quand il n'y a plus de télomères, eh bien, à ce moment-là, c'est le patrimoine génétique de la cellule lui-même qui disparaît. Et à ce moment-là, là du coup, ça ne va pas dans la cellule. Et elle s'en rend compte. Il y a des systèmes d'auto-vérification et elle se dit « oulala, je commence à dérailler ». Et donc là, la cellule a deux solutions. Soit elle se suicide, c'est ce qu'on appelle nous techniquement une apoptose. Elle se dit « ok, je ne suis plus bon pour le service, je ferme le rideau ». Toc, je disparais, et il y a des systèmes de lyse cellulaire qui se mettent en place. Et la deuxième possibilité, c'est qu'elle se transforme, c'est-à-dire qu'elle devienne un cancer. Donc, l'idée, c'est de garder les télomères le plus long possible, et là aussi, on a des moyens pour ralentir cette diminution de longueur des télomères, voire pour les réallonger. Donc ça, c'est déjà une première partie de médecine régénérative, mais cellulaire, pas organique, cellulaire. Ensuite, on peut également travailler sur l'énergie dans les cellules. Les cellules ont besoin d'énergie pour bien fonctionner, pour faire des protéines, des hormones, etc. etc. Et l'énergie va dépendre d'un élément cellulaire important qui est la mitochondrie. Ce sont nos petites centrales électriques dans chaque cellule. Et on sait qu'il y a des substances qui diminuent avec le vieillissement et qui font que notre énergie va être de plus en plus complexe à fabriquer dans nos cellules. Donc, on va moins bien fonctionner, on va avoir plus de difficultés à nous débarrasser des déchets cellulaires, on sera moins efficace pour fabriquer telle ou telle protéine ou enzyme ou hormone. Et donc ça, ça va retentir sur l'ensemble du fonctionnement cellulaire et ensuite de l'organe et ensuite de l'ensemble de l'organisme. Donc, on est capable aujourd'hui de cerner de plus en plus clairement les différents mécanismes de la sénescence et d'agir point par point. Mais comme vous voyez, c'est très technique, hein ? C'est très technique. Alors, moi, ce qui m'amuse toujours beaucoup, c'est de voir... ça m'amuse, je m'excuse de le dire comme ça, mais c'est de voir les gens qui s'automédiquent, qui vont sur Internet et qui lisent que ça c'est bien, ou qu'une copine ou un copain leur a dit « prends ça, ça va te vitaliser ». Et ils se lancent dans des traitements sans queue ni tête, qui leur coûtent des fortunes. Mais non, c'est compliqué un être humain. Il faut l'évaluer. C'est un petit peu comme... Regardez, vous par exemple... Vous pouvez avoir, vous ou moi, n'importe qui nous écoute, peut acheter dans son magasin de bricolage favori tout ce qu'il faut pour faire un Airbus A380. Il y a les boulons, les tournevis, les câbles, tout. Vous pouvez tout. Mais est-ce que vous vous sentez capable, vous, de le faire ? Mais non, mais c'est... Et un Airbus A380, qui sont de merveilleux oiseaux, c'est fabuleux ces machines. Ben, personne n'aurait l'idée de se dire, tiens, moi je vais en construire un dans mon jardin. Et c'est 1000 fois moins compliqué qu'un corps humain. Et pour les corps humains, ils sont prêts à se lancer. C'est dingue.
Il y a une question que je me posais, et que je vais vous poser sur l'alcool. Je porte un... J'ai vu... je porte un petit bracelet qui mesure tout un nombre de data, en particulier la fréquence de la variabilité cardiaque, qui me semble être un chiffre important par rapport au rythme cardiaque. Moi, il se trouve que je crois un très bon cœur, parce que ma fréquence cardiaque au repos, elle est à moins de 40, donc elle n'est pas si mauvaise. Et en fait, moi qui bois très peu, j'ai remarqué que quand je bois un verre de vin rouge, donc pas 50, hein, juste un verre, ma variabilité de fréquence cardiaque, elle chute, ce qui fait que ça a un impact sur la capacité de mon corps à récupérer. Et en fait, puisque c'est le dry January ce mois-ci, on a aussi une très mauvaise compréhension d'abord de la consommation d'alcool qu'on peut avoir, mais aussi de l'impact que l'alcool peut avoir sur son corps. Est-ce qu'on peut en parler deux minutes ?
Moi, c'est un sujet que j'adore parce que c'est le paradoxe français. Vous savez, cette notion de dire que boire du vin est bon pour la santé. Non, mais vous sauriez, mais il n'y a qu'en France qu'on trouve cette notion. Et dans le monde entier sourit en disant « Ah, mais ça, c'est le paradoxe français. » C'est curieux, hein ? Bon, en réalité, il y a des toxiques pour le corps. Le tabac est un toxique. La drogue est un toxique. Eh bien, c'est un peu pareil pour l'alcool. L'alcool est un toxique. Est un toxique à deux niveaux. D'abord parce que l'alcool en lui-même est toxique pour le foie, est toxique pour le cerveau. Et en plus, ça vous apporte énormément de sucre. Et le sucre est globalement mauvais pour le corps. Et ça conduit à un des mécanismes importants de la sénescence sur lequel on peut tous jouer facilement. Enfin, facilement, oui et non. Parce que ça, je dis non parce que ça demande beaucoup de volonté. c'est vraiment quelque chose, l'alcool sous toutes ses formes, est quelque chose qui est délétère pour l'organisme. Ça, c'est dit, c'est fait, c'est prouvé, c'est clair, c'est... Mais l'alcool est festif.
Et puis, il y a le plaisir, voilà.
Voilà.
Ça décompresse.
Ça décompresse, oui, mais alors, c'est intéressant parce que ça devient une problématique de société. Parce qu'on vit dans des sociétés qui nous stressent. Et comme elles nous stressent, en fin de journée, on a envie de se déstresser. Alors, on peut se déstresser en allant mettre une tenue de sport et en allant courir une heure. Ça déstresse très bien. Et puis, on peut déstresser en se prenant un verre de vin, un verre de whisky, ce que vous voulez. Mais ce n'est pas un plaisir en soi, c'est une réponse au stress que nous avons et que nous camouflons par le plaisir, par la détente. Donc, moi, je dis toujours aux gens qui me disent « Ah, mais oui, mais moi, je bois mon verre de vin, c'est bon pour la santé. » Je dis « Cherchez pas d'excuses. » Ça vous fait plaisir, ça vous fait plaisir, ça vous détend, c'est... Bon, ben, appréciez-le, mais ne cherchez pas l'excuse de la santé. Ça, c'est pas vrai. C'est comme fumer une cigarette, mais là, c'est... on a une autre vision, parce que les cigarettes, c'est très américain, c'est le cow-boy, donc on lutte contre tout ça, mais le vin, l'alcool, ben, c'est très français, italien, européen, donc c'est très, beaucoup plus lié à notre culture, hein, et à ce côté festif. Moi, on peut très bien s'amuser comme des petits fous sans s'envoyer 12 bouteilles de bière, etc. Hein.
Ce que je trouve étonnant, c'est que, enfin, ce que je vous disais, c'est que moi, je bois très peu, donc voilà, mais... Enfin, sur mon corps, en tout cas, c'est un verre. On parle même pas d'en boire deux. C'est-à-dire un verre chez moi, en tout cas, ça a un impact. Enfin, et peut-être vous pourriez préciser ce que c'est que la variabilité de la fréquence cardiaque et pourquoi c'est un chiffre important, mais ça joue en tout cas.
Bien sûr, mais vous n'avez jamais bu beaucoup d'alcool,
jamais.
D'accord. Donc, mais on observe qu'en vieillissant, les gens sont de moins en moins